je vais aujourd'hui donner un enseignement qui est un enseignement qui a une vocation précise. Donc ce n'est pas un enseignement biblique général, c'est un enseignement vraiment conçu pour nous en tant qu'Église, l'Église de Jumet que nous sommes, pour nous permettre d'avancer. Alors, donc j'en profite pour dire, voilà, il y en a peut-être ici qui viennent seulement de temps en temps, qui sont pas là forcément toutes les semaines ou quoi, mais voilà, je pense que malgré tout, chacun peut en tirer quelque chose pour lui-même et pour sa marche avec le Seigneur. Voilà. Donc, on va voir où on va arriver aujourd'hui, mais ce sera l'occasion de pouvoir aborder ce thème. Donc je vais certainement éteindre les lumières pour que vous puissiez voir un peu mieux. Je pense que c'est déjà mieux comme ça. Voilà, donc je voudrais parler de principes bibliques pour une église foisonnante de vie et de fruits. Une église qui foisonne de vie et qui foisonne de fruits. Une église pleine de vie mais qui porte aussi beaucoup de fruits. Et je vais en particulier parler de l'organisation du service dans l'église locale. De comment, selon les principes que l'on trouve dans la Bible, le service doit être organisé dans l'église et de principes que Dieu nous donne, c'est Dieu qui nous donne ces principes, pour que l'église soit un lieu de vie, soit un lieu de fruits, un lieu qui est producteur de fruits, qui plaise à Dieu et qui aussi profite aux personnes qui sont dans son sein. Donc c'est un message qui est un peu plus collectif, ça ne s'adresse pas forcément à chacun de façon particulière, mais malgré tout, on peut chacun aussi en tirer quelque chose pour nous. Alors comme introduction, c'est ce que je viens de dire, c'est clair que c'est un message collectif, c'est un message général, c'est un message en même temps spécifique pour notre communauté, mais un message malgré tout très important. Et on va voir pourquoi c'est important que, comme membres d'une église locale, nous puissions nous intéresser aux principes que Dieu donne pour la vie dans l'Église. Pourquoi c'est si important que l'Église soit un lieu foisonnant de vie? Hein, finalement, pourquoi est-ce qu'une Église peut pas être un lieu un petit endroit où on boit une jotte de café, où on dit pourquoi? Qu'est-ce qui fait que c'est si important? Alors, on va tout de suite en venir à une expression qui est répandue aujourd'hui dans le monde, qui est dans toutes sortes de milieux, mais une expression qui est quand même intéressante, qui est quand même importante, et notamment il y a une formation qui est donnée chaque an à Charleroi, et cette formation a comme devise cette phrase-là. Et je la reprends pas parce que c'est dans l'air du temps, mais je la reprends parce qu'elle est importante et qu'elle a tout son sens pour nous. Cette citation est la suivante. L'église locale est l'espoir du monde. Ça a l'air fou quand même. Allez, disons-le, ça a même l'air stupide. L'église locale est l'espoir du monde. C'est comme si... quand on lit cette expression, on peut se dire, ben, on se donne trop d'importance. Hein, on exagère sur qui on est. On pourrait dire quand même aujourd'hui, l'espoir du monde, c'est les sociétés qui font les vaccins. Ça, c'est l'espoir du monde. Ou alors, on pourrait dire, l'espoir du monde, c'est ceux qui trouvent des médicaments contre le coronavirus qui vont faire qu'on va en finir avec les masques. Hein, vous êtes avec vos masques, là. On va en finir avec nos masques. On va pouvoir aller au cinéma sans rien présenter, aller au restaurant sans Covid safety kit. Hein, c'est ce qu'on pourrait se dire. Ou alors, on pourrait se dire, l'espoir du monde, ben, c'est toutes les institutions qui vont permettre qu'on sorte de la crise économique. Ils vont produire de l'argent et on va être tout content de dire « Ouh là là, ça porte beaucoup d'argent ». Et pourtant, cette expression, elle n'est pas folle, elle n'est pas exagérée, elle n'est pas complètement hors principe, alors elle est folle pour le monde, mais elle a tout son sens d'un point de vue biblique. L'église locale est l'espoir du monde. Ah bon? Et pourquoi? Premièrement, parce que l'église remplit des fonctions qui sont essentielles d'un point de vue spirituel et qu'il n'y a qu'elle qui remplit. Premièrement, c'est au travers de l'église locale que l'évangile est annoncé. La bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ se répand à partir des églises locales. C'est à partir de l'église locale, c'est à partir des églises qui sont implantées sur terre que la bonne nouvelle est annoncée.
qu'elle se propage dans le monde, qu'elle est connue dans le monde. C'est à partir de l'église locale qu'on envoie des missionnaires. C'est à partir de l'église locale qu'on envoie des gens qui vont parler de Jésus. C'est à partir de l'église locale qu'on va envoyer des gens qui vont mettre des traités dans les boîtes aux lettres. C'est à partir de l'église locale qu'on va faire des séances, comme ça a été fait, des chapiteaux où on parle de Jésus. L'église locale a un premier rôle tellement essentiel, c'est qu'elle est le lieu à partir duquel l'évangile s'annonce. D'où la raison pour laquelle on essaye toujours de dire, ben voilà, dans les endroits où il n'y a pas d'église, ben on va implanter des églises parce qu'il faut que l'évangile avance là-bas. C'est une chose que seule l'Église fait. C'est pour ça qu'on dit l'Église locale est l'espoir du monde. Au regard de la vie éternelle, au regard des choses essentielles, au regard des choses qui durent pour toujours, l'Église joue un rôle absolument indispensable. Le CPAS n'annonce pas l'Évangile. Pfizer n'annonce pas l'Évangile. Le gouvernement n'annonce pas l'Évangile. Macron n'annonce pas l'Évangile. Colruyt non plus. MediaMarkt non plus. La seule institution sur Terre, qui n'est pas une institution au sens strict du terme, qui annonce l'Évangile, qui fait connaître l'Évangile, c'est l'Église locale. C'est dans l'Église locale aussi que les disciples de Christ sont formés, enseignés, instruits, entourés, encadrés. C'est dans une Église locale que, comme enfant de Dieu, on grandit. C'est dans l'Église locale qu'on apprend à prier, qu'on apprend ce que la Bible veut dire, qu'on apprend même qui est Dieu, qu'on apprend qui est Jésus, qu'on apprend qu'est-ce que la croix, qu'on apprend qu'est-ce que veut dire ce texte et pourquoi tel texte. C'est dans l'église locale qu'on apprend à développer sa relation personnelle avec Dieu. Donc les disciples de Jésus rappellent que Jésus dit à ses disciples « Vous êtes la lumière du monde ». Donc ça pourrait paraître tout aussi excessif que l'expression « L'église locale est l'espoir du monde ». Voilà. Mais il dit, vous êtes la lumière du monde. Et donc, c'est dans l'église locale que les chrétiens qui sont la lumière du monde sont censés, en quelque sorte, se fortifier les uns les autres, s'encourager les uns les autres pour être la lumière. Hein? Et donc, il y a dans le chant « Que la lumière soit », à un moment donné, il dit que cette lumière que nous voyons puisse aussi transparaître au travers de nous. Donc c'est dans l'église que les disciples de Jésus vont être formés aussi au témoignage personnel. Donc on sait qu'il y a l'évangélisation, notamment au travers d'actions collectives, mais il y a aussi l'évangélisation personnelle. D'accord ? Donc je parle à mon voisin, je parle à mon collègue, je parle aux gens autour de moi. Mais souvent, comment est-ce qu'on va apprendre à témoigner personnellement, à témoigner de façon interpersonnelle, ce qu'on appelle l'évangélisation relationnelle ? Mais c'est dans l'église locale qu'on va nous apprendre à présenter l'évangile en quelques mots, par exemple. C'est quelque chose qu'on apprend parfois dans les églises, c'est comment je parle de Jésus en quelques mots. Enfin, on va apprendre ça dans l'église. Mais plus globalement, on va grandir spirituellement, on va connaître davantage la parole de Dieu, on va apprendre à prier, on va apprendre aussi l'éthique du chrétien, comment un chrétien est censé se comporter, ne pas se comporter. Tout ça, c'est dans l'église locale qu'on va découvrir, mais c'est aussi dans l'église locale qu'on va être instruit, entouré, encadré. Mais aussi, c'est dans l'église locale que la parole de Dieu est proclamée et expliquée. Donc l'église locale est un lieu principalement consacré à la proclamation de la parole de Dieu. Et c'est dans l'église locale que la parole de Dieu a toute son autorité. D'accord ? C'est qui le boss dans l'église locale ? L'écriture. C'est le seul endroit. Dans les autres endroits, il y a des boss humains, il y a des lois, il y a des textes. Dans l'Église, l'Église, c'est le lieu où la parole de Dieu a toute son autorité. Toute son autorité. Où on l'explique, où on l'enseigne, où on la proclame, on s'y soumet, on l'explique, on permet qu'elle soit claire pour tout le monde, on la proclame, pour qu'elle rentre dans les cœurs, pour qu'elle produise du fruit dans les vies. C'est dans l'Église locale. C'est aussi à l'église locale que Christ promet spécialement sa présence. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça parle de l'église. C'est dans l'église, dans la présence d'enfants de Dieu que Christ promet sa présence. Alors souvent, on confond la question de l'omniprésence de Dieu et la question de la présence particulière de Dieu. L'omniprésence de Dieu, ça nous est expliqué dans la Bible, on sait que Dieu est présent partout en même temps. Mais vous savez aussi que dans la Bible, il y a des moments où on nous dit que Dieu est là. D'accord ? Par exemple, quand il y a des textes dans lesquels on dit L'ange de l'Éternel est présent. Et quand dans la Bible on dit l'ange de l'Éternel, c'est pour dire Dieu est là, précisément en ce lieu. Donc c'est dans l'Église que Christ promet sa présence spécifique, particulière. C'est là qu'il promet une œuvre spécifique, particulière de son esprit. Et encore une fois, il ne promet pas cela à un magasin, ou il promet ça à l'Église. C'est dans l'Église que sont pratiquées les ordonnances du Seigneur, le baptême, la Sainte Cène. C'est dans l'Église que s'exerce la charité enseignée par Christ. Soutien des nécessiteux, secours matériel. Et c'est l'Église qui annonce le royaume de Dieu. Vous savez que la Bible dit que Dieu va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Tout ce que nous sommes va passer. Vous savez ça? À la poubelle. Et il va recréer quelque chose de nouveau. D'accord? Donc, quelle que soit la place que nous avons dans la société, ou quelle que soit la productivité humaine que nous avons, que nous soyons un grand monsieur qui construit des immeubles, des buildings pour que les gens habitent et tout ça, c'est très bien, et il faut aujourd'hui. Mais un jour, tout ça, ça va passer. L'Église, elle annonce le royaume, elle annonce ce qui vient après. Elle annonce ce qui est éternel. C'est la seule institution sur Terre qui s'occupe des choses éternelles. Des choses qui viennent après, des choses qui ne cesseront jamais. Le CPS annonce des mesures provisoires. Très bien, hein. Mediamarkt annonce des promotions et annonce. Mais il n'y a que l'Église qui parle de la vie éternelle. Et donc c'est une institution qui a une mission importante, une mission forte. Une mission qui lui est donnée par Dieu et une mission que personne d'autre ne peut faire. Personne ne peut faire ce que l'Église fait. Alors on est d'accord que tout le monde se fiche de ce que les Églises font, on est d'accord, mais malgré tout, c'est le plus grand besoin de l'homme. Le premier besoin de l'homme, c'est d'entendre le message du pardon en Jésus-Christ. C'est d'entendre l'annonce du royaume de Dieu. Et c'est dans l'Église qu'on entend ce message-là, ou c'est à partir de l'Église que ce message est proclamé. L'Église est chargée de la grande commission de Christ. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est l'Église qui a ce mandat. C'est ça la mission de l'Église. Aller dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle, faire des disciples, permettre à des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Jésus, pardon, de devenir des disciples de Jésus, des gens qui marchent avec Jésus, des gens qui suivent Jésus, des gens qui connaissent Jésus, qui entendent Jésus. C'est dans l'Église qu'on va accomplir les actes, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hein? Je rappelle que le baptême, ce n'est pas un acte privé, c'est un acte public, c'est un acte ecclésial. Parce que c'est à l'Église que Jésus a confié ce mandat. Et enfin, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Oh, mais qu'il est pénible, ce sale type, qui parle 50 minutes tous les dimanches. Oh, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut le supprimer? Est-ce qu'on ne pourrait pas lui proposer un petit jus d'orange avec de l'arsenic, qu'on n'entende plus parler de lui? Oui, il est pénible, mais, parce que les autres ne sont pas pénibles, hein, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est le mandat de Jésus, c'est ce qu'il nous a demandé de faire. Et c'est pour ça que l'Église passe tant de temps à enseigner, et qu'il y a des gens qui passent tant de temps à parler, parce que c'est ce que Jésus nous a ordonné. Une définition simple aussi de l'Église. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il persévérait. L'Église est donc appelée à être un lieu de prière. Hein, je dirais aussi que c'est le seul lieu où l'on se met en connexion avec Dieu finalement. Hein, on vient juste pour ça. Se mettre en connexion avec le Dieu qu'on ne voit pas mais qui est plus que présent, qui est la cause de toute chose, qui est le Créateur, qui est le Père éternel, bien c'est le seul endroit où on se tourne vers lui pour l'adorer, le célébrer, le connaître. C'est un lieu aussi où œuvre librement le Saint-Esprit, où est censé œuvrer librement le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu lui-même est censé être libre d'agir dans nos cœurs, agir dans nos vies, agir dans ce que nous sommes, dans notre compréhension, et aussi nous transformer. C'est un lieu de communion fraternelle, bien sûr, et c'est aussi un lieu d'édification. Alors, je sais que je l'ai déjà dit 15 fois, mais le problème, c'est que comme l'Église est un lieu qui a plusieurs missions différentes, on n'a pas qu'une seule mission, Certains, en fait, ne retiennent qu'une seule mission à l'Église et ils oublient les autres. Et c'est comme ça qu'on devient des églises boiteuses, comme ça, qui ne ressemblent pas à grand-chose, c'est qu'on se concentre sur une seule mission et on ne fait pas le reste. Hein? Donc on devient des spécialistes de quelque chose et on abandonne le reste. Donc il y a des églises qui sont très communion fraternelle. On est une famille, 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 mais on n'évangélise pas. Il y a des églises qui sont très évangélisation. Ah, on va évangéliser, on va sauver le monde, on va voilà. Mais il y a des gens nécessités dans l'église et on fait rien. Donc le grand défi de l'église, et en particulier des responsables de l'église, c'est de veiller à l'équilibre dans l'église. Que tout ait sa place. Hein, et qu'il n'y ait pas quelque chose qui prenne tout. Voilà. Parce que Jésus a donné toutes ses missions à l'Église. Selon la Bible aussi, l'Église est le corps du Christ. Voilà pourquoi elle est si importante. Le Christ est la tête de l'Église. L'Église est l'épouse de Jésus. Donc dans l'éternité, l'Église sera encore vivante, elle sera encore existante. Les institutions que nous voyons passent, elles n'existeront plus dans l'éternité, mais l'Église sera encore là, invitée aux noces de l'agneau. Donc en fait, l'Église, c'est un peuple qui est en avance d'une guerre, si vous voulez. Alors que tout le monde vit en ignorant le royaume qui vient, l'Église annonce le royaume qui vient. Elle présente le royaume qui vient. Elle vit déjà le royaume qui vient. L'Église est le troupeau du Christ. L'Église est la maison de Dieu. Hein, on avait lu il y a quelques semaines, l'habitation de Dieu en esprit. C'est dans l'Église que Dieu habite. L'Église, personne. Hein, l'Église, en tant que personne, pas en tant que bâtiment. L'Église est aussi un édifice spirituel. Alors, quant à l'Église locale, on peut dire que l'Église locale, c'est un groupe de croyants qui professent dans une localité particulière. D'accord ? Donc, on parle d'Église universelle pour parler de tous les croyants de tous les temps. L'Église universelle, on ne sait pas la cerner, parce que seul Jésus connaît ceux qui font partie de l'Église universelle. Mais il y en a qui sont morts, il y en a qui sont vivants, il y en a qui viendront. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'Église universelle. C'est l'Église que Jésus viendra rechercher. Les morts ressusciteront, et puis ceux qui seront là iront avec lui. Ça, c'est l'Église universelle. Mais l'Église universelle n'a pas d'expression concrète. D'accord ? Il n'y a pas de guichet à l'Église universelle. Il n'y a pas de... Vous ne savez pas rencontrer l'Église universelle. Vous ne savez pas... voilà. La seule manifestation physique visible de l'Église universelle, c'est l'Église locale. Donc l'église locale, c'est l'église de Jumet, l'église de Ransat, l'église de là, l'église de là. L'église locale, c'est l'expression concrète de l'église universelle. Il n'y a qu'au travers d'une église locale qu'on a accès à l'église, à l'église universelle. Et donc, faire partie d'une église locale, c'est pas un acte de voilà, on peut le faire comme ça, c'est vraiment le plan de Dieu. De faire partie d'une église locale, d'un groupe de croyants dans une localité particulière qui se rassemble pour prier, lire la Bible, avancer avec le Seigneur, communion fraternelle. Et donc, ça, c'est le plan de Dieu. Et donc, l'église locale, si vous voulez, c'est l'expression de l'église universelle. Donc, c'est à l'église universelle que Christ donne le mandat, mais il n'y a que les églises locales qui peuvent exécuter le mandat de Jésus. D'où l'importance qu'elles ont dans le plan de Dieu. L'église est un élément essentiel dans le plan de Dieu. Beaucoup de gens, en fait, quelqu'un me disait, c'était intéressant parce qu'elle disait, elle parlait de quelqu'un en disant, mais en fait, lui, pour lui, en parlant d'une autre personne, l'église c'est comme un club d'amateurs. Donc par exemple, il y a les gens qui aiment bien la pêche, il y a les gens qui aiment bien les timbres, il y a des gens qui aiment bien la danse. Et donc en fait, il y a des gens pour qui l'église c'est juste des gens qui se disent, ben, on aime tous Dieu, donc on va se mettre tous ensemble et on va discuter et comme ça on passera le temps. Mais c'est le plan de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on crée nous-mêmes pour passer le temps, c'est le plan de Dieu que nous vivions en église locale et que nous grandissions en église locale. Alors donc l'église locale a plein de missions, un lieu où on lit la parole de Dieu, où l'on prêche la parole de Dieu, où on enseigne la parole de Dieu, un lieu de prière, un lieu de communion fraternelle, mais aussi un lieu, et ça j'insiste aussi, surtout dans ces temps-ci, par rapport à l'enseignement de la parole de Dieu, c'est aussi un lieu où on aide les croyants à vivre dans le monde selon Dieu. D'accord ? Donc être aujourd'hui croyant, dans le monde, c'est pas facile. On est confronté à plein de choses. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit faire, comment on doit vivre. Eh bien, l'Église est un lieu où les croyants sont aidés pour vivre selon Dieu dans le monde. D'accord ? C'est la raison pour laquelle, à la fin d'un culte, on prie en disant « Voilà, Seigneur, conduis-nous maintenant dans cette semaine. » Parce que vous êtes tous là, mais dans quelques minutes, vous ne serez plus là. L'Église sera vide. Hein, donc le lundi, le mardi, quand on vient ici, il n'y a personne. Chacun va rentrer dans le monde, va vivre sa vie dans le monde. Donc l'enjeu, c'est que les temps où nous sommes ensemble sont des temps où on soit fortifié, éclairé, illuminé, pour aller apporter la lumière partout où nous sommes. Et c'est donc dans l'Église qu'on va nous aider à trouver notre place. Hein, on parlait encore hier de que c'est pas facile quand on, avec les collègues, qui sont un peu différents, et comment on fait, comment on se place, est-ce que je peux faire ça, je peux pas faire ça, et comment, et parfois aussi tout ce qu'on vit, hein, qu'on peut vivre de persécution, de souffrance, parce qu'on est chrétien, et donc l'Église est un lieu aussi où on est aidé par rapport à ça. C'est un lieu où on évangélise, c'est un lieu aussi où les disciples sont formés, mais aussi suivis, hein, donc on suit les croyants dans les moments de découragement, les moments où ça va mieux, dans les moments d'égarement aussi. C'est un lieu où on écoute le Saint-Esprit, c'est un lieu où on adore Dieu. En conséquence de tout ça, en conséquence de la grande mission que Dieu donne à l'Église, l'Église doit être un lieu foisonnant de vie. D'accord ? Un lieu de vie. C'est-à-dire un lieu où il y a une synergie entre les personnes, entre les dons des uns et des autres, entre les ministères des uns et des autres. Il faut que ce soit un lieu où un lieu productif spirituellement parlant, en fait. Vous voyez l'idée ? Donc une usine. Il y a des gens qui travaillent dans des usines ici. J'en connais. Je ne sais pas si vous en connaissez, mais moi, oui. Bon, soit. Eh bien, dans les usines, parfois, ils mettent la pression pour qu'on produise des trucs. Donc, on produit des vitres, on produit des machines, on produit, voilà. Et donc, on dit, quoi les gars, il faut aller plus vite parce que vous produisez pas assez. Hein, donc, ça doit être des lieux productifs, une usine. Eh bien, une église, ça doit être productif spirituellement parlant. Ça doit produire quelque chose, une église. Il faut qu'on puisse voir des fruits produits. Qui sont pas des fruits concrets, mais qui sont, il faut qu'ils sortent quelque chose de la vie d'église. Des choses concrètes, des choses vivantes, des choses qui sont, voilà. Donc une église doit être aussi, pour accomplir sa mission, elle doit être organisée aussi. Avoir un fonctionnement clair et un fonctionnement efficace, harmonieux entre les uns et les autres. Il faut que ce soit suffisamment clair et harmonieux que pour qu'on puisse accomplir notre mission. Parce que si c'est un grand bazar organisé, ben alors, on est là et on passe plus de temps à essayer de régler les bidons qu'à faire notre mission. D'accord ? Mais ça, c'est un peu pour toutes les institutions. Il faut que ça fonctionne bien pour qu'on puisse accomplir sa mission. Donc, à cause de tout ce que l'Église est, eh bien, elle doit être foisonnante de vie, organisée, producteur de fruits, pour accomplir pleinement sa mission. Pour accomplir sa mission. Je dirais donc, tout chrétien doit être intéressé par la vie de son église locale. Préoccupé par la vie de son église locale. Préoccupé par le fonctionnement et la productivité de son église locale. Ça doit nous toucher, nous interpeller, on doit être en questionnement par rapport à ça, on doit souhaiter, on doit même déranger parfois. C'est bon les églises locales dans lesquelles les gens dérangent positivement. En disant, on veut aller plus loin, on veut aller plus loin, on voudrait prier plus, on voudrait. Alors, parfois, c'est plus le contraire, pas trop, hein, parce que on est fatigué. Mais au contraire, un chrétien doit souhaiter que son église locale soit productive. On ne devrait pas souhaiter d'être peinard, en fait, d'être pépère. Alors, pépère, ça veut pas dire sur le pont tout le temps, mais pépère, ça veut dire qu'on est là, bon, il y a le temps qui passe, et on devrait même dire, année après année, on devrait dire, qu'est-ce qu'on a produit spirituellement parlant, qu'est-ce que spirituellement on a amené. Et donc chaque croyant, c'est pour ça que je dis que c'est un message ecclésial, mais en même temps que chacun peut se sentir concerné. Chaque croyant doit se dire, je suis parti d'une église locale et je dois me sentir concerné par tout ce qui se passe et volontaire pour que ça avance. En conséquence aussi, nous ne pouvons pas faire les choses avec négligence. Parce que la mission est importante. Parce que le mandat que Jésus nous donne est important. Nous ne pouvons pas faire les choses avec négligence. Nous ne pouvons pas, pardon, prendre le service de Dieu à la légère. On fait un peu comme ça, c'est vroom vroom, mais c'est pas grave, ça ira. Ça doit aussi provoquer notre sérieux, si vous voulez. Nous ne pouvons pas être moins sérieux pour les choses que nous faisons pour Dieu que pour les choses que nous faisons pour nous, pour faire simple. Donc nous ne pouvons pas être quelqu'un qui dit « Moi, mon travail, ça doit toujours être bien clair, je fais toujours tout bien et tout ça, et puis à l'église, non. » Autant nous prenons du soin pour nous, ou pour nos maisons, hein. Dans nos maisons, on va dire, ah oui, il y a des gens qui sont spécialistes pour ça. Oh, il y a 3 mm, ça ne va pas trop, la porte ne ferme pas bien. Ben, on casse la porte, on en remet une nouvelle. Voilà. Parce que ça doit être parfait. Eh ben, nous ne pouvons pas nous permettre moins pour l'église. Et je ne parle pas juste pour le bâtiment, mais spirituellement parlant, pour les choses qui concernent l'église, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser les choses à l'abandon. Spirituellement parlant. Mais aussi, nous ne pouvons pas nous permettre d'improvisation. Nous ne pouvons pas être dans l'à peu près. Mais aussi, nous devons chercher à avoir un fonctionnement clair, une organisation claire et efficace qui nous permet d'entrer dans notre mission pleinement. On sait qui fait quoi. On sait qui fait quoi, c'est clair. Et on ne s'ingère pas dans les fonctions des autres. C'est un fonctionnement qui permet que l'Église joue son rôle. Je dirais aussi que chaque église a son ADN particulier. Chaque église a une place particulière dans le plan de Dieu. Et c'est important d'être bien conscient de ça. Parce que beaucoup de gens veulent que leur église ressemble aux autres églises. C'est inutile ça. Dieu a fait en sorte de mettre une diversité de communautés sur terre pour que chacun y trouve son compte. Et pour que tous les publics aussi puissent être rencontrés. Il y a des gens qui vont ailleurs, qui ne viendraient jamais ici, qui ne mettraient pas les pieds ici parce que ce n'est pas leur truc. Donc, comme il y a des gens qui viennent ici, qui n'iraient jamais ailleurs parce que ce n'est pas leur truc. Donc, chaque église a son ADN particulier. Chaque église va avoir sa façon particulière d'annoncer l'évangile, sa façon particulière de vivre. Hein, ici, c'est la louange libre, par exemple. Hein, donc, ça veut dire que chacun cite un chant, et puis un autre cite un chant, et voilà. Un exemple. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Il y a des églises où c'est, maintenant c'est tel chant, et tel chant, et tel chant, et puis tel chant. Voilà. Chaque église a son ADN particulier. Et c'est important, quand on est dans une église, de connaître l'ADN de mon église. C'est quoi, finalement, les choses importantes dans mon église? C'est quoi les buts particuliers de mon église? C'est quoi les accents particuliers de mon église? Un accent, c'est quoi? C'est, il y a toute la Bible, il y a toute la réalité biblique, et puis, il y a des églises où on met des accents particuliers sur certaines choses. Parce que ça fait partie aussi de ce que Dieu a donné à cette communauté-là. Donc, c'est important d'être là où on veut être, et c'est important de ne pas s'amuser à faire des duplicata. Nous ne cherchons pas à faire comme les autres. Nous ne cherchons pas à être comme les autres églises. Cette église est cette église, elle a son ADN, elle fait sa mission, elle doit grandir dans sa mission, mais pas essayer de copier les autres. Et c'est vrai que c'est pas facile aujourd'hui, à l'ère de la mondialisation, où c'est vrai, il y a des cultes où il y a des 5000 vues par culte, on peut être tenté de dire, bon, on va faire comme eux, comme ça on aura du succès et ça va bien se passer. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que chaque église se mette à l'écoute de son esprit et soit ce que Dieu l'appelle à être. Chaque église va avoir une façon particulière de réaliser sa grande mission, et donc c'est important de bien connaître son église. Alors aujourd'hui, je vais juste parler du premier principe, et puis je m'arrêterai là, puisque le temps avance déjà. Donc le premier principe qui rencontre la mission de l'église, la grande mission de l'église, c'est ce qu'on pourrait appeler le principe de l'implication globale. Et pour le dire simplement, pour ceux qui n'aiment pas les mots trop compliqués, ça signifie que tout le monde a sa part dans le service au sein de l'église locale. Tout le monde a sa part. L'implication globale. Tout le monde est impliqué. D'accord? Donc on pourrait dire l'Église, c'est pas, comme dirait quelqu'un que je connais, c'est pas quelques joueurs sur le terrain et tous les autres qui regardent. C'est Gino qui a dit ça. C'est pas ça l'Église. C'est pas quelques-uns qui font tout et les autres qui se tournent les pouces. C'est plutôt tout le monde sur le terrain et personne qui regarde. Donc c'est voilà. Donc l'Église, c'est un lieu où chacun doit s'impliquer. Et vous savez qu'il y a des époques dans l'histoire de l'Église dans lesquelles il y avait des phénomènes, même encore aujourd'hui, des phénomènes de ce qu'on pourrait appeler de cléricalisme. Cléricalisme, c'est voilà, vous êtes là, il y a un bonhomme qui fait tout et personne ne fait rien d'autre. Et donc, il y a une personne qui est attitrée à faire des choses et personne d'autre n'est impliqué. D'accord ? Au contraire, nous devons considérer l'Église comme le Nouveau Testament la voit, c'est-à-dire un lieu où tout le monde s'implique, où tout le monde a sa part, où tout le monde est acteur dans l'Église locale. Dans l'Église, nous sommes donc tous nécessaires, tous importants, mais aussi tous spéciaux, uniques, avec un apport particulier. En même temps que nous devons être tous impliqués, chacun va apporter quelque chose de particulier qui n'est pas semblable à ce que l'autre va apporter. Et nous sommes tous qualifiés par Dieu pour quelque chose de spécifique. D'accord ? Tous qualifiés par Dieu pour quelque chose de spécifique. Donc l'Église doit être la responsabilité de chacun. Toute l'Église doit être impliquée dans la mission. En d'autres termes, il y a une grande mission qu'on a rappelée tout à l'heure, aller par tout le monde, voilà. Et à l'intérieur de cette mission, chacun va prendre une place particulière qui est la sienne. D'accord ? Donc quelqu'un va prendre une place dans la louange, quelqu'un va prendre une place dans l'accueil, quelqu'un va prendre une place dans l'encadrement des enfants, quelqu'un va prendre une place dans l'intercession, quelqu'un va prendre une place dans la logistique, quelqu'un va prendre une place dans le diaconat, chacun va prendre une place particulière que quelqu'un d'autre ne va pas prendre. Et donc on pourrait dire aussi 100% de l'Église doit être impliquée dans le service. Et donc je lis aussi une conception du sacerdoce universel. Chaque membre de l'Église, conscient de sa responsabilité, est appelé à mettre au service des autres les dons qu'il a reçus du Seigneur. Seul le chef de l'Église, dans le but de contribuer à glorifier et adorer le Seigneur, ainsi que pour édifier la communauté et rendre témoignage au monde. Chaque membre, conscient de sa responsabilité, s'implique dans l'Église pour que l'Église puisse accomplir son rôle, glorifier Dieu, mais aussi d'édifier, donc édifier la communauté, s'édifier les uns les autres, mais aussi pour rendre témoignage au monde. Ainsi, dans l'Église, dans le corps du Christ, chaque membre joue son rôle, sa fonction. Tout le monde est important et tout le monde est indispensable. Okay. Mais, j'ajouterai, nous sommes tous égaux en valeur, mais nous ne sommes pas, n'avons pas des fonctions identiques. D'accord ? Donc ça veut dire nous sommes tous égaux en valeur, ça veut dire que devant Dieu, ben, nous sommes des enfants. Voilà. Mais nous n'avons pas les mêmes fonctions au sein du corps. Et c'est ce qui justifie des traitements particuliers de l'un ou de l'autre, des fonctionnements particuliers avec l'un et avec l'autre, c'est la place que Dieu nous a donnée dans le corps. Nous ne sommes pas plus importants qu'un autre, mais Dieu nous a donné telle place dans le corps et on doit assumer cette place dans le corps de Christ. Enfin, on pourrait dire tout le monde a sa responsabilité, mais chacun doit être à sa place dans l'Église. Donc ce n'est pas tout le monde pour faire tout. C'est tout le monde impliqué, mais chacun dans son rôle et chacun dans sa place. Et c'est très important de veiller à ça. Et vous connaissez évidemment, on ne va pas le rappeler, mais la métaphore de l'apôtre Paul sur le corps de Christ, qui dit, ben voilà, l'œil est l'œil, la tête est la tête, le bras est le bras, et c'est important que le bras soit un bras. Mais si le bras veut jouer le rôle de l'œil, on ne s'en sort plus. Ou si le bras dit, mais moi, on n'a pas besoin de moi, on ne s'en sort plus non plus. Donc il faut qu'en même temps, chacun assume son rôle, tout en respectant le rôle des autres. Nous devons donc, chacun d'entre nous, nous inquiéter, un, de notre marche avec le Seigneur, et nous inquiéter de notre implication dans l'église locale. Qu'est-ce qui peut me permettre d'être utile à mon église locale? Qu'est-ce que j'ai qui peut faire du bien à mon église locale et qui peut aider mon église locale pour qu'elle accomplisse son rôle? Nous devons donc rechercher les dons et les capacités que nous avons pour les mettre à la place qu'il convient. Ainsi, aucune capacité ne devrait être inutilisée dans l'église. J'insiste, ça veut dire qu'il ne devrait pas y avoir quelqu'un qui a une capacité dormante qui ne sert à rien. Ce n'est pas le plan de Dieu. Toutes les capacités, c'est ça quand on dit une église foisonnante de vie, c'est une église dans laquelle toutes les capacités en présence sont activées. Et vous savez que l'église est toujours déforcée quand une capacité n'est pas activée. Une capacité est là, mais elle n'est pas activée. Et donc c'est là que les responsables se cassent la tête. Oh là là, il faut quelqu'un pour faire ça. Qui va bien pouvoir le faire? On va devoir trouver. Il faut qu'on prie pour trouver quelqu'un. Voilà. Parce qu'il y a des capacités qui ne sont pas activées. Et vous savez aussi que quand il y a des capacités qui ne sont pas activées, quelque part, sans qu'on s'en rende compte, ça crée des problèmes. Ça nous frustre. Parce que ben voilà, l'église ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner, parce que tout n'est pas mis en commun et qu'il y a des choses qui manquent. Et donc la devise devrait être les bonnes personnes au bon endroit pour la bonne tâche. Et ça, c'est très important. Il faut que tout le monde soit impliqué, mais les responsables doivent veiller à ce que ce soit les bonnes personnes. En d'autres termes, ce n'est pas n'importe qui, n'importe comment. Il y a des conditions bibliques pour chaque chose. Les bonnes personnes au bon endroit, c'est-à-dire qui sont dans leur place, qui jouent leur rôle, mais qui font la bonne tâche aussi, de la bonne façon. Et lorsque chacun dans le corps prend bien sa place, eh bien le corps fonctionne correctement. Je vais en rester là pour aujourd'hui. Donc pour résumer en trois mots, l'Église a une mission très importante. Dans le plan de Dieu, l'Église a une mission importante. Parce qu'elle a une mission importante, nous devons tous nous sentir impliqués par la vie de notre Église locale. Deuxièmement, dans l'Église, nous sommes tous appelés à nous mettre au service pour permettre à l'Église de jouer son rôle. Et dans l'Église, où chacun doit chercher à être à sa place, à être dans son endroit. Ainsi, c'est le moment aussi pour chacun d'entre nous, comme Église, pas pour dire « Ah oui, c'était intéressant, il faudrait apporter ça à Ether B, qu'ils en auraient bien besoin. » Mais nous, à Jumet, comme Église, de nous dire « Tiens, est-ce qu'on est pleinement impliqué? Est-ce que je suis pleinement impliqué ?» Qu'est-ce qui fait obstacle à ce que je sois impliqué? Qu'est-ce qui empêche de? Comment l'Église peut avancer? Comment l'Église peut mieux jouer son rôle? C'est le moment aussi pour nous de nous poser la question ce matin. Amen.